When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Dans quelques jours sera disponible en intégralité un entretien avec Stéphane Genet, un spécialiste de l'espionnage du XVIIIe siècle. On y abordera le thème sous toutes ses coutures, mais avant ça, je vous propose de nous attarder sur un point essentiel qui constitue la base de cette thématique, les espions en eux-mêmes. Qui étaient-ils ? Existaient-ils des professionnels du renseignement à cette époque ? Et tout compte fait, c'est quoi un espion ? En attendant l'entretien complet, je vous propose de découvrir la réponse à cette question dans cet épisode. Bonne écoute sur Nota Bene.
Bon alors du coup, ta spécialité comme ça, c'est l'espionnage.
C'est ça, oui. L'espionnage est en plus au siècle des Lumières. Donc je travaille en fait sur le secret, l'histoire du secret, l'histoire de l'information, l'histoire des relations internationales et tout ça au XVIIIe siècle.
Mais alors, vu qu'on est sur le profil de l'espion, est-ce que à l'époque, on a des gens dont c'est vraiment le métier? Ou c'est quoi un espion, en fait? C'est une carrière ou c'est...
Alors, espion, si on regarde la définition qui est, je crois, dans l'encyclopédie, je le dis de tête, personne que l'on paye pour épier les actions d'autrui. Et c'est d'ailleurs art militaire. C'est intéressant, hein, c'est classé dans art militaire. Globalement, on est espion à partir du moment où on est payé pour justement aller regarder quelque chose qui doit être secret. À partir de ce moment-là, on devient espion. Ce n'est pas une carrière. C'est-à-dire que on raisonne en termes de saison militaire. La saison militaire au XVIIIe siècle, on commence à se combattre au beau jour et on arrête quand l'hiver tombe, quoi. Donc, généralement, on va agir le temps d'une saison, parfois moins. Parfois, on va avoir des espions qui vont servir pour une campagne. Donc là, c'est encore plus court. Hein. C'est le temps que l'armée se trouve en Flandre, par exemple, ou en Pologne. Et j'ai trouvé quelques cas d'espions professionnels. Mais c'est vraiment très, très rare. Hein. J'en ai un qui va servir 28 ans. Alors, il faut bien comprendre pourquoi c'est rare. En fait, d'abord parce que c'est un métier dangereux. Là aussi, quand on trouve un espion, généralement, on le pend souvent à l'entrée du camp, hein, histoire que ça serve d'exemple aux autres. Donc, c'est un métier dangereux et c'est pas très bien rétribué à hauteur du danger. Donc, en plus, les volontaires ne se bousculent pas trop. Et dernière chose, les espions servent toujours un maître. Il ne peut pas y avoir d'espion freelance. C'est-à-dire qu'un espion, s'il veut être payé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière, qui lui demande de faire une opération. Alors, ses maîtres, ça va être le secrétaire d'État à la guerre, le secrétaire d'État à la marine, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, le roi lui-même, un chef de guerre local. Et donc, ils vont avoir leur réseau d'espions. Et donc, un espion obéit à un maître. Et le principe, c'est que les maîtres changent. Et donc, c'est très difficile pour un espion de garder en quelque sorte un commanditaire sur le long terme, parce qu'un général qui va être affecté à une zone donnée l'année suivante peut très bien être affecté tout à fait ailleurs. Et donc, l'espion, soit il suit son général, soit bah, il a perdu son commanditaire, quoi. Et donc, là, par exemple, un espion auquel je pense, qui s'appelle Simon Louvrier, lui, il va servir en plus avec son fils. C'est une affaire d'espionnage de père en fils. Ça va durer 28 ans, son affaire, ce qui est extraordinaire. Hein. Il va servir, mais c'est tous les grands noms de l'époque. Quoi. On le voit servir Maurice de Saxe, on le voit servir Choiseul, on le voit servir vraiment tous les grands ministres. Et c'est finalement, à la fin, il est débarqué parce qu'arrive un nouveau ministre qui a son propre réseau d'espions et on n'a plus besoin du vieil espion, l'ouvrier. Quoi. On se débarrasse de lui. Et d'ailleurs, il finit assez mal, hein, puisque bah, les lettres se multiplient dans lesquelles il dit qu'il est dans la misère, qu'il n'a plus rien pour vivre. Et il rappelle dans ses lettres son passé d'espion. Et c'est comme ça que bah, je l'ai connu, en fait, ce passé-là.
Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.